Je déclare l'audience ouverte.
Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Marianne Corel, bonjour.
Bonjour madame.
Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler de prison, du métier de surveillante de prison précisément que vous avez exercé pendant 37 années au centre pénitentiaire de Rennes, un des deux établissements de France qui n'accueille que des femmes. Nous allons donc aussi parler de la situation des femmes en prison dont on parle si peu. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que lorsque vous avez raccroché il y a presque 5 ans, vous avez ressenti le besoin de dire la réalité de votre métier. Loin des clichés et des termes réducteurs, dites-vous, de gardien de prison, porte-clés, entend-on aussi parfois quand ce n'est pas maton. Note bien tout pour ne rien oublier, vous a dit une collègue quand vous avez débuté. Vous l'avez écouté et tout au long de votre carrière de surveillante, chef de bâtiment puis major, vos petits cahiers ne vous ont pas quitté et vous avez publié, à 63 ans début mars, Au cœur de la prison pour femmes, ma vie de surveillante aux éditions Talendier. Vous dites aussi dans votre livre que c'est un métier qui est mal connu et mal compris.
Bien sûr qu'il est mal connu et mal compris, mais ce que je reproche aux médias, et je le dirai haut et fort partout où je passerai, c'est qu'on ne passe jamais sur le métier de policier ni de gendarme. On entend beaucoup parler des policiers, on entend parler des gendarmes, mais comme je le dis et régulièrement, mais les personnes qui sont arrêtées par les policiers, qui passent par la case du commissariat, qui vont ensuite chez un juge d'instruction, qui vont ensuite chez le procureur, cette même personne, elle atterrit où ? Elle atterrit en prison. Qui est-ce qui les reçoit ? C'est nous, le personnel de surveillance. Qui est-ce qui se fait insulter ? C'est le personnel de surveillance. Qui est-ce qui se fait cracher dessus ? C'est le personnel de surveillance. Alors, moi, je veux bien qu'on parle des policiers. Oui, ils sont en danger, soit sur la voie publique. Mais ce qu'ils arrêtent sur la voie publique dans des états, ce qu'on voit à la télé, on le voit dans nos prisons. Aujourd'hui, moi, j'habite Rennes. Il y a une très grande prison à Rennes, qui s'appelle Rennes-Vezin. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une agression sur personnel. Ce n'est pas tous les jours marqué dans les journaux, mais j'ai des copines qui travaillent et qui me disent, bah, tu sais, encore aujourd'hui, il y a eu un tel qui a été hospitalisé parce qu'il s'est fait agresser par un détenu.
Ce livre est aussi l'occasion pour vous de dénoncer la prise en charge des femmes en prison, les discriminations dont elles sont victimes et qui sont, elles aussi, rarement évoquées. Vous écrivez « Les femmes sont seules, elles forment une population invisible ». Qu'avez-vous constaté ?
Je maintiens complètement ce que vous dites, puisque je l'ai écrit et je continuerai à le porter. Ce qu'on peut constater, c'est les files d'attente des parloirs dans les prisons d'hommes, elles sont toujours complètes. Il y a toujours des femmes, des épouses, des mères, des sœurs, des frères, une famille qui va voir la personne détenue homme incarcérée. En établissement pour femmes, ça s'épure très vite. Au début, il y a du soutien, un petit peu, et après, déjà, le mari, il s'épuise très vite. Il vient de moins en moins, quand il n'est pas incarcéré en même temps que la personne qui a commis l'acte. Mais ça s'épure très très vite et la personne détenue est très vite seule et à peu de visites. Restent les amis, souvent des amis, eux d'ailleurs, toujours des femmes, un petit peu la famille, les parents, les pères, les mères. Moi, j'ai vu beaucoup de parents en souffrance qui ne comprenaient pas, qui se posaient beaucoup de questions. Mais sur le plan affectif, en couple, ça s'épure très très vite.
Il y a aussi cet exemple du kit d'hygiène en fait qui ne comprend ni tampons ni serviettes hygiéniques jusqu'à une période récente.
Oui. En France, il y a eu les règles européennes pénitentiaires qui ont été mises en place, donc qui ont été pensées par des personnes du ministère de la Justice. Ou par exemple, je vous donne l'exemple, un kit arrivant devait être identique dans toutes les prisons de France. C'est-à-dire qu'on devait retrouver toute une panoplie de besoins. Une femme, elle a besoin de serviettes périodiques, de tampons périodiques. Eh bien, dans le kit arrivant, il n'y en avait pas. Au départ, le premier kit arrivant, il n'y en avait pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 3% quelque chose de femmes incarcérées. Donc on n'a pas pensé que dans un kit arrivant, il fallait aussi mettre des kits arrivants femmes, avec des choses pour des femmes dedans. Non, on n'a pas pensé. On n'a pas oublié la mousse à raser et le rasoir, mais on a oublié les serviettes périodiques. Donc vous pensez bien que quand les surveillantes ont fait ce constat-là, elles ont dit, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, là, on ne va pas donner des kits arrivants. Donc, sur les deniers de l'établissement, alors qu'on rentrait en règle européenne, pénitentiaire, donc sur les deniers de l'établissement, on était obligé de prendre du budget pour acheter les serviettes périodiques de ces dames. Pas normal. Donc, les surveillantes sont montées au créneau. Moi, je les appelle les petites mains. Celles qui font le constat dans les étages de ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est grâce à elles qu'on peut avancer, hein, parce que c'est quand même elles qui sont en proximité avec les détenus. Donc, elles viennent me dire ça. Elles viennent me dire, mais regardez, Mme Morel, le kit arrivant, il est vraiment incomplet. Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Je monte au créneau auprès du directeur de l'époque, à qui je rends hommage dans mon livre d'ailleurs. Et je lui dis ça. Je lui dis, regardez, monsieur le directeur, voilà le kit. Regardez ce qui manque. Il manque quoi, qu'il me dit dans le kit? Ben, je dis, voyez, il y a de la mousse à raser, il y a un rasoir, mais il n'y a pas de serviette hygiénique. Comment? Qu'il me dit, il n'y a pas de serviette hygiénique, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Et c'est ce monsieur qui est monté au créneau, qui a mis une révolution dans les kits arrivants. Et aujourd'hui, ça a encore plus évolué, puisque aujourd'hui, bon, moi je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, mais c'est récent en même temps. Donc je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, mais aujourd'hui, bon, c'est différent. Je crois qu'il y a même des distributeurs de serviettes périodiques. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Et j'ose espérer que ça va encore évoluer encore plus.
Et comment vous expliquez-vous cette différence de traitement? Est-ce que justement c'est parce que les femmes ne représentent que 3,5% de la population carcérale et qu'elles doivent avant tout s'adapter à un cadre prévu pour les hommes?
Vous m'avez donné la réponse, madame. Elles sont 3,5%. Donc elles sont minimum, donc elles courbent les chines, elles suivent le mouvement. Les hommes sont en majorité, les femmes suivent le mouvement. 3,5, c'est pas beaucoup. Jamais de mutinerie dans les prisons de femmes, à ma connaissance toujours. Ou alors si c'est à Fleury-Mérogis, dans les années 82, 83, mais ça n'a pas été très loin.
Alors une des missions, vous l'avez dit plus tôt, de la prison, c'est de parvenir à la réinsertion des personnes qui en sortent. Vous constatez souvent l'échec de cette réinsertion et écrivez « La sortie du centre pénitentiaire pour une détenue est comparable à l'arrivée d'un migrant en pays étranger ». Vous insistez aussi sur les conséquences de la détention qui sont rarement abordées. Alors, quelles sont-elles ?
Là, on va parler des longues peines. Parce que l'image du migrant m'a été donnée par une longue peine qui avait passé plus de 22 ans en prison, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et je me souviens de sa première sortie où elle était rentrée quelques jours après et elle avait eu une permission de 48 heures, oui. Et j'étais chargée de faire un point avec son travailleur social. Et c'est elle, et j'ai pris note, c'est elle qui m'a dit, tel un migrant qui se sent perdu. Je me souviens très bien de ce qu'elle m'avait dit. Et je lui avais demandé, mais pourquoi vous me dites ça ? Mais elle me dit, mais j'ai perdu tous mes repères. Tout, ça va trop vite. Tout va trop vite. Les voitures, elles vont vite. Ça s'affiche partout dans une gare, parce qu'elle avait pris le train pour aller d'un point A à un point B. Avant, c'était le petit papier, on regardait. Et là, il y avait des écrans. Elle me disait, ça s'affiche partout. Pour prendre les billets, on peut le faire à l'automate. Alors qu'elle, bon, ce qu'elle avait dans l'esprit, c'était d'aller vers le guichet et toutes les démarches administratives qu'elle devait faire. Bon, trouver le bon interlocuteur, c'était pas évident, quoi. Oui, c'était elle un migrant, oui. Sauf qu'elle parlait le français, une chance. C'est ce qu'elle m'a dit, d'ailleurs, j'aurais pu le marquer dans mon livre. Heureusement que je parlais le français et que j'ai pas perdu mon temps en détention, que j'ai fait beaucoup de choses, ça me permettait d'aller vers les gens et de leur poser la question, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer, me montrer ?
parmi les conséquences de la détention que vous évoquez, vous nommez les pertes de l'orientation, de la notion du temps, et évidemment la coupure relationnelle avec l'extérieur, la vie sociale qui s'oublie. Vous avez constaté que la réinsertion se faisait bien difficilement, n'est-ce pas ?
Moi, je pense, oui, qu'elle se fait difficilement. Je pense. Je pense que ça doit être très, très difficile pour quelqu'un de se remettre, de remettre le pied à l'étrier et de foncer. Ça doit être. Il y a des obstacles.
D'où votre volonté, que vous expliquez aussi dans votre ouvrage, de maintenir les détenus actives. Vous vous démenez pour mettre en place des ateliers, organiser des sorties, et vous dites que l'emprisonnement pur et simple n'est pas une solution.
Absolument pas. Il faut garder une dynamique. Si la prison est faite pour juste incarcérer quelqu'un et faire en sorte qu'elle ait à manger et qu'elle ait un couchage, c'est pas ça la prison. La prison, il faut mettre des leviers. Le premier levier, pour moi, ça n'engage que moi, le premier levier, c'est obliger la détenue à se lever le matin. Moi, quand je voyais des détenus couchés du matin au soir, qui se levaient jamais, parce que la promenade n'est plus obligatoire. Il n'y a plus rien d'obligatoire. Le travail n'est plus obligatoire. La promenade n'est plus obligatoire. Bon, inévitablement, il y a la télé, il y a les PlayStation, il y a le tabac, il y a le café. Alors avec ça, les voilà contentes. Donc, je ne parle pas des longues peines, là, parce qu'après, les longues peines, c'est autre chose. Les longues peines, elles se disent, je suis condamnée, il faut que je fasse quelque chose de ma détention, pour la plupart, sauf pour les personnes qui ont une grosse pathologie mentale, mais ça, on en parlera après, si vous voulez bien. Mais moi, je parle des personnes détenues qui arrivent à l'écrou en maison d'arrêt. En maison d'arrêt pour un temps bien précis, en attente de jugement, ou condamnées à une peine inférieure à 2 ans, en attente de jugement, soit pour une cour d'assises, soit pour un tribunal correctionnel. Et on les met là, on les incarcère, surpopulation, partout il y a de la surpopulation, même chez les femmes en maison d'arrêt, ça je suis certaine. Donc, on les met là, il y en a qui font rien de leur journée. Rien, rien, rien. Et ce n'est pas normal. La prison, c'est pas ça. La prison, il faut mettre des obligations. Se lever le matin, s'habiller, se présenter correctement, faire quelque chose, c'est-à-dire mettre en place des activités. Activité obligatoire. On est capable de le faire dans des quartiers mineurs. Moi, j'ai des collègues qui travaillent en quartier mineur, qui ont travaillé en quartier mineur. On les occupe. Il y a une dynamique qui se met en route. Alors, le pauvre mineur, j'ai l'impression qu'il n'a même pas 5 minutes de repos, tellement il faut toujours qu'il soit en action. Je ne demande pas ça. Je demande qu'on puisse mettre en place des leviers pour que la personne détenue se dise bah, « Le passage prison, il m'a servi à quelque chose. » Parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends parce que je suis pas plus protégée qu'une autre. Moi, la cité, je la connais aussi. Moi, j'entends, je suis passée à la caisse-prison. Super ! Alors là, qu'est-ce que c'était bien ? On faisait du sport, de la gonflette toute la journée. Ben non, c'est pas ça. Montrer le chemin de la réinsertion, c'est mettre les gens au boulot pour moi. Et à la formation, et les mettre à l'école. La plupart étaient en échec scolaire, toujours en maison d'arrêt. Mettons-les sur le chemin de l'école, obligatoire, même s'ils ont plus de 18 ans, où est le problème ?
Vous dites aussi que la violence en prison est à son paroxysme. À Rennes aussi, même si la surpopulation carcérale que vous évoquiez à l'instant, endémique, n'est pas celle bien sûr des maisons d'arrêt. Vous évoquez aussi la violence de certaines surveillantes difficiles à dénoncer, tabou. Comment y remédier ?
Ça, c'est un sujet très épineux. La violence dans le personnel de surveillance. Lorsque un personnel de surveillance est violent, ben moi, je l'inviterais à changer de métier très rapidement. C'est une erreur de recrutement. Enfin, pour moi, la violence, elle n'a pas à être utilisée. Elle est utilisée avec un cadre, bien évidemment. Bien évidemment, on est obligé des fois d'utiliser la force, mais dans un cadre bien précis, avec des ordres.
Et qu'avez-vous à dire sur le recrutement et la formation dont bénéficient aujourd'hui les surveillants ?
Alors le recrutement, moi je pense qu'il y a un gros problème, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à recruter apparemment, puisqu'ils ne font pas le plein dans tous les concours. Le métier est pour certaines personnes rebutant. Pourquoi il est rebutant ? Parce qu'il est peut-être mal vendu, peut-être. Quant à la formation, moi, j'ai reçu une très bonne formation. Et franchement, sur tout le long de ma carrière, j'ai toujours accepté les formations continues. Les formations initiales sont peut-être à revoir. Et moi, je mettrai en avant le tutorat. tel un apprenti qui rentre dans une entreprise pour apprendre un métier où il est pris en charge par un plus ancien qui lui montre le b.a.-ba du métier et comment on peut avancer et faire des choses, soit avec ses mains ou... Mais je pense que ce métier-là, on doit accompagner le surveillant. Parce que trop de surveillants sont un peu jetés dans l'arène comme ça. On me dit qu'aujourd'hui, en région parisienne, par exemple, il y a beaucoup de stagiaires qui prennent en charge des nouveaux stagiaires. Mais comment on peut être formé par un stagiaire? C'est inimaginable, quoi. Le métier de surveillant, il ne s'apprend pas en 6 mois, ni en 1 an. Il faut vraiment, je dirais, des années pour apprendre ce métier-là. Pour moi, il y a danger.
Vous avez fait référence tout à l'heure aux détenus qui souffrent de pathologies mentales. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose sur ces personnes qui, en détention, souffrent de pathologies et qui peut-être devraient être prises en charge, peut-être en psychiatrie, non ?
Ben moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier cette facette-là. Hein, parce qu'on a fermé des lits dans les hôpitaux psychiatriques, soit, c'est bien, peut-être, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, en France, on reçoit des personnes détenues, condamnées définitives, souvent par des cours d'assises. Donc ça veut dire, pour des longues peines, condamnées parfois à des 20 ans, à des perpétuités. Je vous passe des détails, je vous passe des noms, mais ils sont quand même très connus à travers la presse et à travers la télévision. Ces gens-là, ils ont une pathologie mentale, il faut les gérer. On fait comment ? Comment un surveillant va gérer une pathologie ? Un schizophrène ? On n'a pas appris à gérer un schizophrène. On ne sait pas faire. Alors on fait avec les moyens du bord. Bon, c'est vrai que la psychiatrie est présente dans les prisons. Il y a une unité psychiatrique, il y a des psychiatres, ils sont pris en charge, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais malgré tout, ont-ils leur place en prison ? Est-ce qu'un schizophrène qui est condamné à 20 ans, il est schizophrène, il va sortir dans 12-13 ans, il sera toujours schizophrène, hein ? On n'aura pas trouvé de solution en prison, ça c'est sûr.
Alors votre chemin, Marie-Annie Corel, croise aussi celui de détenus tristement connus, comme Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, un temps incarcérée à Rennes. Comment gère-t-on ce type de détenus et quels souvenirs avez-vous d'elle ?
Alors on les gère de la même façon que les autres. Parce qu'elle est peut-être médiatique à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est Monique Olivier. Donc elle est comme les autres détenus. Par contre, elle sort du panier parce que c'est elle qui nous oblige à la gérer différemment, si vous voulez. Elle dit avoir des problèmes avec les autres détenus. Elle nous dit que les autres détenus l'agressent, l'interpellent, l'insultent, l'agressent physiquement. Alors elle nous fait perdre énormément de temps, Madame Olivier. Parce qu'on s'aperçoit que Madame Olivier raconte des histoires. Parce que les détenus en question, qu'elle nomme, n'ont rien à se reprocher puisqu'elle ne se trouvait même pas sur son chemin. Difficile de monter un scénario si les autres détenus ne valident pas. Il y a bien une personne qui ment, soit Madame Olivier, soit l'autre détenu. Donc on perd un temps fou, parce qu'on a une obligation. Les détenus, on doit les protéger. On ne doit pas accepter qu'une détenue se fasse agresser par une autre détenue. Donc on perd énormément de temps, et on fait des enquêtes, on rencontre, et on s'aperçoit que Madame Olivier, elle se raconte des histoires.
Et les relations avec les autres détenus ?
Elle avait des relations avec quelques détenus. Elle avait une petite poignée de détenus qui étaient très bien avec elle, qui discutaient avec elle et qui partageaient des moments d'échange avec elle. Madame Olivier sait faire les choses. Elle sait amener les gens vers elle. C'est une très grande manipulatrice, Madame Olivier.
À quoi ressemble une journée en détention de Monique Olivier ?
Alors, Madame Olivier, elle est retraitée, donc elle ne travaille pas. Et par contre, c'est une personne qui est très engagée sur des activités, enfin, qui était au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, très engagée sur des activités, à savoir des activités sur l'informatique, entre autres. Elle aimait beaucoup se rendre à la salle d'informatique. Et on avait d'ailleurs une intervenante qui lui montrait un peu l'utilisation de l'outil, et c'était très important. Et Madame Olivier lit énormément, et c'est une cruciverbiste. Elle aime beaucoup tout ce qui est mots croisés, mots fléchés, et elle a une intelligence bien au-dessus de la moyenne. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle est en capacité de nous promener de droite et de gauche.
Marie-Annie Corel, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de notre podcast Au cœur du crime. Au revoir.
Au revoir, madame. Merci à vous.
Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs. Une musique de Michaël Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.